J'aime avoir, cher indolent, de ton corps si beau, comme une étoile vacillante, miroiter.
La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins qu'à celui les lèvres. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête.
La rage, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi, si j'ai osé, de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, dit Asli Maghrébin. Même ce qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, dis-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me piquer le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Ouse Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous recevons un invité d'honneur, mais les fidèles...
Pas d'honneur de leçon, d'honneur.
Oui, d'honneur, avec apostrophe, voilà. Que nos invités, que nos habitués connaissent bien, Thierry Gadeau. Thierry, bonsoir.
Bonsoir, Mariama.
Bonsoir François.
Bonsoir Mariama, bonsoir Thierry.
Bonsoir François.
Bon, alors aujourd'hui...
Tu ne trouves pas que je parle comme Léa Salamé un peu?
Tu trouves?
Alors, pourquoi cette
future introduction... carrière à France Inter.
Pourquoi cette sortie sur Léa Salamé? Parce qu'on va parler de la presse.
Exactement,
la bataille contre la censure...
C'est la presse.
Contre la censure de la presse. Oui. Nous avons un journaliste d'investigation qui travaille, qui a une carte de journaliste et qui fait de la presse aussi.
En ce qui me concerne, oui.
Voilà.
C'est sûr, Léa Salamé, je ne sais pas.
Thierry, toi,
je crois qu'elle est surtout animatrice de télévision.
Oui. Et puis les nouvelles, je ne sais pas ce qu'on leur enseigne vraiment dans les écoles de journalisme, mais en ce moment, je suis très surpris parce que moi, j'écoute très souvent, il ne faut pas le répéter, j'écoute très souvent France Culture. Et alors, il y a une nouvelle race, non pas de magasin, mais une nouvelle race de magasinière, enfin de présentatrice et de présentateur, qui n'arrête pas de couper la parole aux invités. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont invités à chacune de leurs émissions. C'est eux qui sont les principaux invités.
C'est
incroyable.
C'est un grand défaut des journalistes. Des speakers radio-télé, pour ne pas les appeler autrement. Mais qu'on partage, malheureusement, c'est qu'on adore parler. Et donc, évidemment, dès qu'on nous tend un micro, même si ce n'est pas nous l'invité, même si nous ne sommes pas les invités, on veut parler. Intarissable. Une sale engeance.
Alors, on va parler de Acrimed, Action Critique Média, qui publie la 19e version de Média qui possède quoi. Elle est en ligne gratuitement sur le site de Acrimed, acrimed.org.
Et le diplôme l'a mis en page centrale ce mois-ci.
Tout à fait. Merci François de rappeler cette information. Qui possède quoi, ça permet de savoir quels sont les chiens de garde et les chiennes de garde dans chaque média dominant. Je parle des médias dominants, je ne parle pas des médias indépendants, dont fait partie le média dont on va parler, Blast.
Tout à fait, oui, médias indépendants.
Voilà.
Sur Internet, YouTube, chaîne de télé sur YouTube et un site d'information, d'enquête en ligne.
Alors, donc les chiens et les chiennes de garde, ça permet de savoir qui censure ou permet l'autocensure de certaines enquêtes. Et qui permet à ce que la presse Bayeux, à ce que les procès Bayon ne sortent pas dans leurs journaux respectifs. Parce qu'on va surtout parler de procès Bayon. Blast fait l'objet d'un procès Bayon, mais cette fois-ci en Suisse. Ça va être l'exemple que l'on va développer. Mais Thierry, si tu pouvais revenir avant les procès Bayon sur les états généraux de la presse qui ont eu lieu au mois d'octobre et qui, dans les conclusions.
Oui, alors c'est un machin qui a été lancé par Emmanuel Macron, notre président de la République bien-aimé, évidemment. Alors, je ne sais plus quand il a eu cette idée saugrenue. Je crois que c'était au moment de la crise du JDD ou une crise précédente qui concernait un organe de presse, où il a pensé, évidemment, comme il ne veut rien faire contre Bolloré, qui le sert bien par ailleurs. Mmh. Donc il a imaginé faire un grand raout dont les conclusions sont déjà connues, c'est-à-dire poubelle. Donc il ne se passera rien, comme tous les rapports des commissions Théodule que Emmanuel Macron a institué depuis 2017. Donc ça ne sert ce bazar qui est réalisé avec la complicité du président de Reporters sans frontières. J'allais dire collaboration, mais je vais pas être assez méchant pour ça.
Donc c'est je préfère Doloire.
Ouais. Donc je vais rester poli et aimable à son égard.
C'est un confrère après tout.
C'est un confrère, mais c'est pas ça. Mais bon, voilà. Mais voilà. J'ai pas envie de me fâcher tout de suite. et me pousse pas dans mes retranchements. Donc, ce machin, pour reprendre les termes du grand Charles, donc ne va servir à rien si ce n'est à faire plaisir et à quelques idiocraties utiles des médias audiovisuels et radiophoniques qui vont se gargariser pendant des mois et des mois avec les résultats formidables de cette convention à laquelle sont évidemment tenus très loin les médias indépendants. Et oui, il faudrait quand même pas qu'on vienne rompre le consensus, à savoir que tout va bien dans la presse, circuler, il y a rien à voir, et tant que Bolloré est aux commandes, rien ne changera, ou Xavier Niel. Je commençais à dire du mal de Xavier Niel.
Il y a aussi Kretinsky et Pigasse.
Oui, les deux autres idiots utiles du système. Voilà, est-ce que c'est besoin, doit-on véritablement épiloguer, perdre du temps à parler de ce truc qui non seulement ne sert à rien, mais est fait pour occuper une scène médiatique et pour ne pas parler des vrais problèmes. Donc les vrais problèmes, les médias indépendants seraient invités, ils en auraient le lead, ils proposeraient des mesures, et les mesures, elles sont connues, notamment via le syndicat de la presse en ligne, le SPIL, qui a un tas de propositions de réformes, notamment sur les aides à la presse, où faudrait arrêter d'arroser les milliardaires qui sont propriétaires, pour les déverser à des vrais sites qui font de la vraie information. Ça changerait, mais évidemment, c'est pas le but du jeu.
Ah non.
Donc, ça sert strictement à rien.
Alors, par contre, les médias indépendants...
Ça sert à arroser les riches, quand même.
Oui.
À justifier... implicitement, ce bousin sert à justifier la poursuite du système tel qu'il est, de pas le changer, si ce n'est peut-être de nouvelles aides pour les médias dominants.
Alors, les médias indépendants, par contre, ont fait leur contre-sommet à ce moment-là. C'était ça l'Olympe de Gouges, et il s'était plaint. Et je reviens sur les mesures que propose Acrimed sur son site internet, qui ont été reprises et qui ont fait consensus. Donc, si on veut changer quelque chose pour la presse, il faut d'abord se lutter contre la concentration et la financiarisation des médias.
Ah oui,
ça n'a pas l'air, mais ce serait un bon début, effectivement.
Alors, si on se souvient, à une époque, il existait en matière de presse des seuils de concentration, et d'ailleurs c'était une longue bataille dans les années 90, notamment pour rogner les ailes d'Hersan. Et quand on voit aujourd'hui, quand on compare Hersan et Bolloré, tout compte fait, moi je préfère Hersan, hein, je sais pas vous, mais C'était au moins, alors même si on n'était pas d'accord politiquement avec la ligne de ces journaux, qui était quand même à droite, mais il y avait des vrais journalistes dans ces journaux.
Oui.
Au Figaro, il y avait des vrais journalistes. Et il y avait aussi beaucoup de journalistes de gauche qui travaillaient au Figaro. Parce que j'ai des copains qui ont travaillé au Figaro. Et donc, il posait un problème en termes de concentration, mais on peut pas dire qu'à son époque, la presse écrite notamment, n'existait pas et n'était pas de qualité, quoi qu'on pense par ailleurs de la ligne politique qu'il avait, alors que ce n'est aujourd'hui plus le cas avec quelqu'un comme Bolloré, évidemment, qui tient tous les médias audiovisuels, ou presque, et qui amène tous les médias audiovisuels à s'aligner sur sa ligne d'extrême droite.
Ça sentait moins la sacristie qui se néglige, quand même.
Ah, c'est clair.
Hein ?
C'est clair.
Alors, deuxième proposition, pour un service public de l'information et de la culture. Ça te plaira, ça, François.
Ah oui. Dès que j'entends parler de culture, je sors mon micro, hein, on va dire.
Oui, mais en la matière, la France a eu, en matière de culturel, de service public culturel, la France a eu une grande politique, là aussi, quand on remonte dans le temps, les maisons de jeunesse et de la culture qui étaient dans... Et encore lancées par un homme de droite, hein, c'est du temps des années 60, du général de Gaulle, ouais. D'André Malraux, etc. Et le Parti communiste, à l'époque, participait aussi dans les communes qu'il détenait à l'éducation populaire et culturelle, et c'était une véritable réalité, mais effectivement tout ça a été démantelé progressivement par les gouvernements, etc., etc.
Troisième proposition, défendre l'indépendance des rédactions et la déontologie des journalistes. Alors ça
c'est un vrai problème, parce que effectivement on peut et qui a plusieurs niveaux, parce que quand on dit l'indépendance des rédactions, il y a effectivement un problème, c'est dans des médias privés, séparer le capital de la ligne éditoriale, ça paraît quasiment impossible, y compris en mettant un soi-disant mur entre le propriétaire et la rédaction. Moi, je l'ai vu quand je travaillais à la Tribune et qu'on avait été racheté par Bernard Arnault, c'est totalement illusoire. Le deuxième problème, c'est que malheureusement, et alors à mon époque, ça n'existait pas encore trop dans la presse écrite, mais aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de titres de presse écrite nationaux, régionaux, et évidemment dans les médias radiophoniques et audiovisuels, c'est que les gens qui sont aux commandes des rédactions sont des exemples parfaits de la bien-pensance, du lèche-cuisme. et vont toujours dans le sens du marteau ou de l'enclume, je sais pas, mais dans le sens du pouvoir, en tout cas du pouvoir politique et du pouvoir économique, et donc mettre des garanties à l'indépendance des rédactions par rapport au capital n'est pas suffisant. Faudrait aussi que tous ces larbins du pouvoir, des pouvoirs politiques et économiques financiers, soit viré, quoi, pour faire le ménage et pour redonner une certaine liberté aux rédactions. Et puis, par ailleurs, il faudrait aussi leur donner la garantie des moyens dont elles ont besoin pour fabriquer une information de qualité. Parce que fabriquer de l'information, enquêter, faire de l'enquête, ça demande beaucoup d'argent, c'est cher, ça demande du temps, et donc il faut beaucoup de moyens. Et l'une des façons de tenir les rédactions, c'est aussi de couper dans leur budget pour qu'elles soient sous la pression et qu'elles n'aient pas le temps de réaliser ces enquêtes, ces reportages qui permettent d'enrichir des faits d'actualité.
Je ne sais pas si tu te rappelles, Thierry et Mariama, en 2002, il y avait un bouquin qui était sorti, moi j'avais beaucoup apprécié parce que je débarquais un petit peu. Ça s'appelait « Les nouveaux chiens de garde ». Et alors, dans ce bouquin...
De Serge Halimi.
Oui, de Serge Halimi, qu'on ne peut pas le nommer. Ce bouquin, il disait, pour reprendre ce que tu viens de dire, Thierry, c'est-à-dire qu'il faut protéger les journalistes contre la ligne éditoriale du patron, mais il faudrait aussi protéger certains journalistes contre eux-mêmes. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils fassent des séances de brosse à reluire.
Ils le font aujourd'hui en permanence.
Ils le font pour garder, se disent-ils, leur emploi.
Au-delà, je pense que certains sont convaincus idéologiquement Ah bon? Oui, oui.
T'as pas
oui,
lu
oui.
Les petits soldats du journalisme de François Ruffin?
Mais moi, je peux pas lire tout ce que tu lis, Mariama. Je ne suis qu'un être humain, moi.
C'est aussi un excellent livre, évidemment, voilà. Le livre de Ruffin. Mais il y a eu une conversion idéologique dans les années 90.
Voilà.
Le fait que aussi la presse commence à basculer et commence à être concentrée dans la main de quelques
milliardaires,
hommes d'affaires très riches qui ont un agenda politique eux et qui ne s'en cachent pas et donc ont grimpé et ils ont fait monter des gens qui idéologiquement étaient déjà sur cette ligne-là. Moi, je l'ai vu très bien à la Tribune à l'époque. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, en dehors du fait qu'étant délégué syndical, mon avenir était bouché, donc il fallait que je m'en aille.
J'étais marqué. Bah, ouais,
j'étais marqué, mais j'ai bien vu qu'il y a eu une prise du pouvoir idéologique, ce qui n'était pas le cas, parce qu'avant la Tribune, alors c'est vrai qu'on était, on se présentait volontiers comme le libé de l'économie, donc une ligne plutôt contestataire, plutôt de gauche, mais il y avait des gens de droite, des gens de gauche dans la rédaction, et surtout, ce qui nous intéressait, c'était de sortir de l'information, sortir du scoop, y compris contre nous-mêmes. Donc, voilà.
Alors, mémoire à Jean, à Kiefer, qui était ton confrère à l'époque.
Oui.
Henri Kiefer, qui a disparu en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et on sait qu'il a été assassiné par les sbires l'épouse de Gbagbo, le président
de l'époque,
Guy Henri Kiefer.
Alors, quatrième proposition, constituer et constitutionnaliser le Conseil national des médias. Ça parle.
Le Conseil national.
Un Conseil national des médias.
Méfiance.
Ouais. Mal. Pour le coup, je crois qu'il faudrait quand même, avant d'arriver à ce type d'institution où dès que c'est quelque chose d'institutionnalisé, les dérives sont pas très loin. Non, mais... je pense qu'il faudrait plutôt donner plus de pouvoir à la commission de la carte.
Oui.
Et qu'elle ait des véritables moyens de sanction contre des gens qui ne respectent pas la déontologie du métier, à qui elle attribue soit un numéro de commission paritaire pour les titres de presse, soit une carte de presse pour les journalistes, et que ces deux instances, donc la commission paritaire et la commission de la carte, se voient dotées de nouveaux moyens pour justement... les règles, on les connaît. Mmh. On connaît la charte du journalisme. Elle a maintenant plus de 100 ans. Mmh. Elle a été rappelée, il me semble, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, nos règles déontologiques et éthiques sont connues. Il suffirait de les faire appliquer, mais pour chasser de notre métier les gens qui l'utilisent à d'autres buts.
Alors, Les Nouveaux Chiens de Garde, le livre de Serge Halimi, a donné lieu à un excellent documentaire qui a été fait par deux documentaristes d'exception dont on a reçu un. C'est Gilles Balbastre et Yannick Argoat, et ça s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Et le site d'Acrimed vend Les Nouveaux Chiens de Garde, parce que c'est un must, et ça montre vraiment c'était l'état de la presse à une époque, à l'instant T. Quand on voit ce que c'est devenu maintenant par rapport au conflit majeur d'Ukraine d'abord et ensuite Israël-Palestine, on se rend compte que c'était prémonitoire.
Qu'est-ce que tu reproches au traitement par nos chers médias israélien? Mais
on a fait une émission et on ne va pas y revenir. Elle est en ligne sur le site.
D'accord, c'est un peu manichéen. Enfin, manichéen, je ne sais pas s'ils connaissent tous le mot, mais enfin. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que. Bon, puis après, j'arrête. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que le manichéisme, il change de bord. C'est-à-dire que c'est le blanc devient noir parfois. Là, en ce moment, avec la guerre contre les Palestiniens, on le voit bien. Voilà, j'ai fini, excusez-moi.
Bon, enfin, pour parler de guerre, il faudrait qu'il y ait deux armées. Là, il y a juste un massacre.
Oui, c'est une guerre coloniale qui tourne au sûr. Hein. On se croirait au temps du roi des Belges, là, qui était un grand colonisateur. Hein.
Oui. Bon, on peut parler aussi...
des Français, Madagascar.
Oui, mais voilà. les colonisés ne pouvaient pas l'applaudir parce qu'ils leur faisaient couper les mains, c'est
ça.
Oui.
Alors, je rappelle que Média Critique est le journal trimestriel de Acrimed et qu'on le vend 4 euros tous les trimestres. Ça donne un état des lieux de la presse française et internationale. Et on le vend à Publico, notre cher Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Alors, Thierry, à toi. Tu vas nous parler de ton collègue Moran
Kerinek.
Voilà,
et donc la dernière procédure Bayon...
Est-ce que tu peux nous le présenter déjà? Parce qu'on ne le connaît pas.
Alors, Moran Kerinek est un jeune, plus si jeune non plus, mais par rapport à moi, c'est encore un jeune journaliste qui est basé à Lyon, qui est un journaliste indépendant, donc un pigiste, comme on dit dans le métier, qui est un excellent enquêteur... tous ces papiers qui sont publiés ou à Blast ou ailleurs, je sais qu'il collabore aussi à Reporter et
tout à fait.
J'ai plus les autres titres en tête, mais sont tous d'excellents papiers, d'excellentes enquêtes. Par exemple, un exemple, il y a quelques semaines, le magazine Capital, en association avec la cellule d'investigation de Radio France, donc l'émission Secret d'Info, ont publié une grande enquête sur Macron et les chasseurs, la présentant comme un scoop. En fait, Moran Kerinek l'avait publié en deux volets, un an avant, c'est-à-dire pendant et juste après la campagne présidentielle de 2022. Donc voilà, si vous voulez, c'est quelqu'un qui sait travailler, quoi, qui sait aller chercher l'information et qui par ailleurs écrit très bien aussi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a combien de temps ? Il y a deux ans de ça, voilà. Environ.
Oui.
Denis Robert, qui est le directeur de la publication
de Blast,
qui s'intéresse à un tas de choses et qui achète parfois des livres qu'il ne devrait pas acheter, voit une publicité pour un livre publié en Suisse sur Big Pharma.
Ouais.
Le sujet l'intéresse. En fait, le livre était gratuit, il fallait juste payer les frais de port. Et donc, je ne sais pas comment il se débrouille, par quels moyens il paye le truc qui lui arrive. Il n'a jamais dit un mot du livre, donc je pense que c'est une vraie daube. Et en revanche, il se met à recevoir des lettres sur la thématique de la santé, mais version plutôt covido-sceptique, anti-vax, en fait, liée de près ou de loin à toute la sphère complotiste d'extrême droite, etc. Et ça vient de Suisse. Et il découvre qu'il paye un abonnement mensuel de 30 euros. Donc évidemment, il fait cesser cet abonnement. Mais il en parle à Moran en lui demandant d'enquêter c'est quoi ce business des lettres de cette sphère complotiste et qui arnaque les gens en vendant vous soignez pas par la médecine normale hospitalière du cancer mais utilisez les plantes, un bain de siège, en fait voilà quoi, ils ressortent les casarailles, etc. Faites trempette avec les pieds et puis vous irez tout ira mieux, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Mais enfin, c'est quand même 30 euros par. Et c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui sont abonnés volontairement ou à leur insu à ce type de lettres. Donc, Moran fait une première enquête, qui est une enquête vidéo, qui est sur le site, qu'on peut retrouver sur le site de Blast, dans lequel il raconte ce business. Mm-hmm. Et il découvre que le fondateur de ce groupe de lettres basé en Suisse est un Français de droite extrême très catho, pour pas dire plus. Et donc, voilà. Et puis, à la suite de cette première enquête, Moran reçoit des tas de messages de salariés de ce groupe, qui raconte les méthodes de management qui se révèlent être du harcèlement, enfin, management maltraitant. Bon, voilà.
Des lanceurs d'alerte.
Oui, des salariés qui dénoncent leurs conditions de travail. Mm-hmm. Très classique, hein. On l'a fait, je l'ai fait dans un certain nombre de services publics français, ou ex-services publics français. Donc voilà, donc il trouve que c'est une bonne idée de poursuivre cette enquête pour parler des méthodes de management, et donc il se met à enquêter, il fait toute l'enquête, il accumule les témoignages, les preuves, et puis, comme dans toute enquête, au bout d'un moment, une fois qu'on considère qu'on a suffisamment d'éléments, on prend contact avec l'entreprise concernée, en l'occurrence le dirigeant qui n'est pas l'actionnaire fondateur, mais qui est un de ses cadres dirigeants, lui aussi français, lui aussi proche de l'extrême droite, et pour voilà avoir le contradictoire, savoir ce qu'il en est réellement. Rien que du très logique, ce qu'on fait tous les jours à Paris, quoi, en France. Et puis, il n'a pas le temps de reposer le téléphone.
Ouais.
On apprend qu'un tribunal suisse est saisi et va nous interdire de publier l'enquête.
C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que...
Alors, c'est le tribunal... voilà, excusez-moi, on en revient à la définition, parce que peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas le terme procès Bayon. Donc, il faudrait que ça serait sympa que tu nous l'expliques
avant la pause musicale.
En deux mots.
Oui, en deux mots.
Alors, un procès Bayon, évidemment, en France, je ne parle que de la France. Là, je ne parle pas de la Suisse. Pour la France, un procès Bayon, c'est quoi ? C'est un journaliste fait une enquête documentée avec des sources, etc. Publie son enquête soit dans la presse écrite, soit dans un livre, par exemple. Et les personnes qui sont visées dans l'enquête, enfin, qui sont nommées dans l'enquête, pas visées, nommées dans l'enquête, porte plainte pour diffamation. Et en gros, ça a un seul but, ces procès, c'est éviter que l'information soit reprise par les confrères. Voilà. C'est ce qu'on appelle un procès Bayon. Typiquement, j'en ai eu trois. Je pourrais détailler après.
Oui,
mais voilà, un procès Bayon, c'est fait pour ça. C'est porter plainte pour faire peur aux confrères et les menacer implicitement. Si vous reprenez ces informations, vous aurez à vous expliquer devant le tribunal. Alors évidemment, comme les autres, notamment la grande presse, entre guillemets, nationale ou régionale, ne fait pas d'enquête, ne va pas demander à un journaliste d'aller vérifier les informations, voire d'en trouver d'autres. Voilà, donc, là, on ne va pas en parler, on ne va pas inviter le journaliste à la radio ou à la télévision pour parler de son travail. Et donc, l'information tombe dans un trou noir et c'est comme si le journaliste n'avait rien fait, même si deux ans plus tard, en première instance, il va obtenir gain de cause. Trois ans plus tard, parce que la personne en question fera forcément appel, la cour d'appel va lui donner gain de cause. Mais voilà, donc on a tué l'information. Le procès Bayon, ça sert à ça, tuer l'information.
Alors, on va faire une pause. Et ensuite, on va revenir sur tes procès Bayon et celui de Suisse qui nous intéresse particulièrement. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
Stand up for your right, Lord, Lord. ism, schism, game, diamond, go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna
Cher François, cher Thierry, alors, musique choisie par Thierry, pour quelle raison?
Bah, c'est Get Up, Stand Up.
Oui.
Je pense que c'est de saison.
On ne
D'accord.
présente pas.
On ne présente pas. Alors, tu vas nous présenter tes trois procès bâillons, et notamment un où je vais, la radio va te faire une attestation.
Oui, mais je vais finir avec l'histoire suisse, puisqu'on
oui,
parlait
sûr.
Des procès Bayon, donc qui étaient faits des procès qui étaient des procédures enclenchées après publication, donc pour tuer l'information, comme je l'expliquais. Et là, en Suisse, c'est totalement différent, puisque la procédure...
Alors, elle s'appelle, très précisément, elle s'appelle... Mesure provisionnelle.
Ouais, super provisionnelle.
Voilà.
Dans notre cas. Donc, en fait, en Suisse, n'importe qui, alors bon, ça s'intéresse qu'aux plus riches et aux plus puissants, puisqu'il mm-hmm. faut avoir les moyens de prendre un avocat, il faut connaître les procédures, etc. Quand il est au courant qu'un journaliste enquête sur lui, a la possibilité d'aller au tribunal et de dire « Ah, moi, je ne veux pas qu'on parle de moi. » Et la plupart des cas, le tribunal dit « Ah bah, vous avez raison ». Et donc, non seulement interdit la publication de l'article, mais condamne le journaliste et le média en question à payer les droits de justice, les frais de justice. Donc, c'est ce qui est arrivé à Blast, à
1700 francs suisses.
Ouais, en gros, 2000 euros.
Comment ça se fait que Blast, il a été condamné par une juridiction suisse? Il a été condamné, mais en Suisse, en France, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas Interpol qui va veiller à...
Malheureusement, il y a des accords bancaires, il y a des accords entre la France et la Suisse. Et ça, c'est notre avocat, Julien Kahn, qui l'a expliqué. C'est que si on refusait de payer, on pouvait avoir un séquestre sur les comptes de Blast et la procédure pouvait nous coûter beaucoup plus cher. Donc évidemment, on est dos au mur. Donc c'est quoi ? C'est aller faire appel en Suisse. Donc ça va coûter beaucoup d'argent pour manifestement à peu près, voire pire, une condamnation pire et ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Ouais, d'accord.
Pour faire condamner la Suisse qui ne respecte pas... Voilà, donc c'est vrai que...
C'est vraiment un déni de justice.
C'est un vrai... En fait, c'est une vraie censure de la presse qui est en cours en Suisse. Alors en Suisse, là, derrière son décor de cartes postales, là, tout propre,
et de Genève,
etc. On sait bien que la Suisse qui aimait beaucoup l'argent des nazis, a aussi beaucoup contribué à tous les scandales financiers de détournement d'argent, etc. Qu'elle a été longtemps, elle a longtemps refusé de mettre un terme à ces pratiques les plus scandaleuses au nom du secret bancaire et de la bonne santé de l'économie financière suisse. Bon, ben maintenant on découvre aussi chose qui était qui est connue des journalistes suisses, mais pour un média français, c'est je pense qu'on est peut-être les premiers. J'ai jamais entendu d'autres cas similaires. Peut-être que je me trompe, mais j'en ai jamais entendu. On est confronté à une véritable censure, à un déni de droit, à des lois qui interdisent la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les cantons
Helvètes. Alors, il y a une procédure qui est contre le Nouvel Obs, mais dans l'affaire Benalla, côté Genève. C'est-à-dire que la femme qui avait recueilli Benalla et son fils et sa femme, lorsqu'il y avait le problème du coffre-fort, avait attaqué le Nouvel Obs, parce que le Nouvel Obs avait fait son portrait, comme étant proche de la France-Afrique, C'est pour ça que j'ai surveillé ce procès. Sûr. Et elle avait été condamnée en France. Donc, c'est une information qui avait été donnée gracieusement par des gens qui surveillent la France-Afrique à la journaliste Caroline Aguirre de Nouvelle Obs.
Oui, Caroline Michel, oui.
Voilà.
Excellente journaliste.
Excellente journaliste. Et la plaignante avait porté plainte en Suisse. Donc, le Nouvelle Obs a dû se déplacer en Suisse. Et l'affaire Benalla s'est déplacée en Suisse. Et il y a eu Fatih Mansour du Temps, qui a fait d'excellentes chroniques sur ce procès.
D'accord, ça m'avait échappé.
Pas moi.
Mais voilà, et ils ont été condamnés.
On attend la décision.
D'accord, ok. Donc, mais bon, alors, le Nouvel Obs a certainement plus de moyens
que Blast.
Que Blast, je rappelle que. Puis on va revenir sur notre premier sujet. Le Nouvel Obs fait partie du groupe Le Monde. Le groupe Le Monde est propriété de Xavier Niel, milliardaire bien connu des télécoms, et proche ami d'Emmanuel Macron. Donc je suis sûr que Xavier Niel a les moyens de financer un procès en Suisse, voire un appel en Suisse, voire un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Blast n'a pas encore ses moyens. Peut-être qu'un jour, mais en l'occurrence, aujourd'hui, non.
On peut dire les tarifs, c'est 5000 francs suisses pour au minimum. Oui. Et quand on dépose un mémo, c'est 900 francs suisses. Parce que c'est les tarifs que tu avais donnés, que tu consignes dans l'article, par François Pilet. Oui. Et Corinne Hemel, que j'avais reçue dans l'émission, pour la lettre de Gotham City France.
D'accord.
Parce qu'il y a la lettre de Gotham City Suisse et il y a la lettre de Gotham City France. Voilà. Okay. Donc, ils sont deux lettres qui s'occupent de tout ce qui est délinquance économique et corruption économique, mais côté suisse et côté international. Et donc, ils ont donné les tarifs qui sont cités dans l'article de Blast.
Ah, voilà. Tout à fait.
Donc, les tarifs de quoi ?
D'avocat ?
Tarif d'avocat pour si on avait, on s'est pas défendu, on n'a pas pris d'avocat, donc on a plaidé en direct, Blast a plaidé en direct devant le tribunal en Suisse sur cette affaire, et parce que le coût d'un avocat c'est 5 000 euros, quoi.
Ah d'accord.
Et donc voilà, ouais. C'est vrai qu'on a déjà un certain nombre de Blast, a déjà un certain nombre de procès en France, alors même si Julien Kahn, qui est un super avocat, prend pas très cher, mais enfin, on peut pas accumuler comme ça en permanence des procédures qui coûtent beaucoup d'argent et pour lesquelles on est rarement remboursé, y compris en France, quand on gagne un procès. Donc, on peut avoir des frais de justice, on en a eu contre BHL, mais disons que c'est pas courant, quoi. Donc, voilà. Mais c'est voilà. Donc, j'espère que pour Caroline et pour l'Obs, évidemment qu'ils obtiendront gain de cause dès la première instance, mais je crains qu'ils ne soient partis dans un long combat judiciaire en Suisse.
Oui. Alors, est-ce qu'on a le droit de citer la lettre en question en France ? Nous sommes en France. Le nom de la lettre ?
Alors, faisant partie de Blast, je m'abstiens.
Bon, je la cite.
Je ne donne aucun élément qui pourrait être ensuite reproché à Blast. D'accord. Préfère être prudent sur ce point-là parce que on se rend compte que la justice suisse est particulièrement retorse et perverse. Donc, je ne dirai rien à ce sujet.
Alors, c'est une lettre qui est à Lausanne. Elle est fondée par des Français et son nom c'est Vivara. Donc, il y a des profits mirobolants et une ambiance délétère sur le terme professionnel. Donc, on reproche au manager, proche du manager, du management.
XXX, comme on l'appelle.
Voilà. Un comportement sexiste et sexualisé, pour le moins. Il est diplômé de l'IEP et son avocat est maître Nicolas Capte. Voilà. Vous pouvez le lire sur Blast. Il est en une de Blast, l'article. Je n'ai fait que répéter. Et ton collègue Moran Kirinex s'est défendu le 21 août à Genève.
Oui.
Voilà. Mais... Donc, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'article, il explique comment la liberté de la presse en Suisse s'est trouvée rognée au fil du temps. Parce qu'il y a deux articles. Il y a l'article... alors, attends, que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai tout noté sur mes notes. Il y a l'article 47 de la loi fédérale sur le secret bancaire, qui fait que on n'a pas le droit de donner des informations issues, couvertes par le secret bancaire. Donc, ce qui fait que quand il y a des scandales sur les secrets bancaires suisses, comme les SwissLeaks, les journaux suisses ne peuvent pas en parler. ils lisent les enquêtes de leurs confrères dans leurs magazines internationaux. Mais les SwissLeaks, il y a un consortium de journalistes mondial, pas un Suisse dedans. Impossible. Ça, c'est peu connu. Donc, moi qui suis une lectrice passionnée de la presse économique depuis très longtemps, j'avais constaté ça depuis des années. Mais je ne pensais pas que pour SwissLeaks, ce n'était pas possible. C'est officiel. Voilà. Donc, l'article 28 du Code pénal, autre article cité dans le
dans l'enquête.
Dans l'enquête de Morane. Et revient sur l'adverbe particulièrement. Un homme politique a réussi à enlever le peu de droits de journaliste parce qu'il fallait faire la preuve que les informations étaient particulièrement sensibles. Il a enlevé le particulièrement, donc il suffit qu'elles soient sensibles et ça suffit pour être condamné. Donc ça a été le cas pour Blas. J'ai bien résumé ?
Oui, c'est ça. Il y a une évolution récente de la législation, de ce que j'ai compris aussi, effectivement, et qui a rendu encore plus compliqué la tâche des journalistes, parce qu'avant, ils avaient encore une marge de manœuvre pour plaider, y compris si c'était un patron de boîte, mais qui n'était pas connu, qui n'avait pas une surface médiatique, etc., mais pour quelque part démontrer l'intérêt public de l'information, ce qui est d'ailleurs l'une des conditions que nous demande la 17e chambre, enfin les cours correctionnels qui s'occupent du droit de la presse en France. Donc quelque part, il faut démontrer l'intérêt public de l'information pour éviter des sanctions. Et donc il y avait cette possibilité aussi, enfin qui était déjà elle-même déjà limitée quand même. Il fallait vraiment avoir un dossier solide. Et en fait, ça devient quasiment impossible de démontrer avec l'évolution législative qui a eu lieu récemment en Suisse, ça devient quasiment impossible de démontrer l'intérêt public d'une enquête. Donc à partir de là,
c'est mort. C'est mort. Alors, Morane donne l'exemple de l'affaire Juan Carlos, où on enquêtait sur le roi Juan Carlos pour son blanchiment d'argent en Suisse. Il y avait un intermédiaire financier dans ce dossier. Il a obtenu qu'on ne cite pas son nom même en Espagne, ce qui était fantastique. Donc, alors, ce qui fait que...
Ça menace quand même la liberté de la presse des autres nations.
Tout à fait. Il y a eu une réflexion chez Blast pour publier l'enquête, malgré tout, l'enquête de Morane, pour la publier in extenso, y compris avec le nom de ce triste sire en France, et de mettre en place une espèce de filtre qui empêchait des connexions de Suisse. Mais c'était extrêmement compliqué, quasiment impossible à réaliser. Donc ça n'a pas été fait. Donc l'enquête, elle est au frigo pour le moment. Mais notre liberté d'expression, nos libertés de la presse en France sont touchées, sont atteintes, sont mises en cause par cette réglementation en Suisse.
6 mois de travail à la poubelle. Alors, donc, si j'ai bien compris, oui, c'est 6 mois d'enquête qu'il a fait autour de ce procès. Alors, en plus, l'avocat a été pervers, parce qu'il appelle pour dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il faut que vous revoyiez votre copie, et pendant ce temps-là, il dépose une requête au tribunal. Donc, c'est inélégant.
Oui, c'était véritablement pour gagner le temps nécessaire pour interdire la parution de l'enquête. Oui.
Alors, Morane, ton confrère...
Oui, c'est de bonne guerre, quoi. Tout est permis, tous les coups sont permis.
Tous les coups sont permis puisqu'ils sont acceptés par la justice suisse.
Oui. Alors, il y a un problème, c'est que la Suisse, il y a le côté de... C'est le tribunal civil de Genève. Genève, il n'y a pas que Genève civile. Il y a aussi la Genève internationale. Toutes les grandes institutions sont à Genève. Donc, il faut imaginer que s'il se passe quelque chose dans ces institutions, les Suisses ne pourront pas la publier.
Oui, c'est un risque. évidemment. Mais il y a quand même une presse d'investigation en Suisse.
Et je salue
les confrères suisses.
Alors, on va les citer. On va citer investigative.ch. Il y a Sylvain Besson à la tribune de Genève. Il y a Fatima Ansour, que j'aime beaucoup autant. Il y a Colin Hemel et François Pilet, entre autres, à la lettre de Gotham City. Il y a beaucoup, 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 beaucoup.
Public Eyes.
Public Eyes.
Avec Agathe Duparc.
Voilà. Que je rêve d'avoir un jour dans mon émission, si elle trouve le temps de passer à part Paris. Agathe Duparc a été longtemps à Mediapart.
Tout à fait.
Voilà. Et elle fait un travail fantastique à Public Eyes, qui était avant la déclaration de Berne.
Et ils sont spécialisés sur les enquêtes sur le trading de matières premières. On sait que la Suisse est une place forte du trading de matières premières à l'échelle mondiale. Et ils arrivent à sortir quand même de superbes enquêtes, malgré cette législation très répressive.
Oui, et des enquêtes de très haut niveau. Alors, publiceyes.ch pour aller sur leur site. Si vous voulez, vous...
Et puis, ils ont des journaux de très bonne qualité, Le Temps, notamment.
Le Temps, la Tribune de Genève, et investigative.ch.
La Tribune de Genève, la lettre... ça a une bonne réputation. Hein.
Oui, et la...
Moi, je te parle des années 60, des années gaulliennes.
Hein. D'accord, et je finis
pas encore la
lettre de Gotham City.
À cette époque.
La lettre de Gotham City, pour terminer, pour les informations. Alors, on va revenir à ton actualité sur les procès Bayon. Alors, on a parlé du procès Bayon en Suisse, on va parler du procès Bayon, toi, en France.
Ah bah, moi, déjà, j'ai eu récemment une très bonne nouvelle, puisque mon dernier procès Bayon, c'était... initié par Anne Lauvergeon pour le livre que j'ai écrit sur Marc Échinger, cet ancien directeur de salle de marché devenu agent de renseignement auprès de la DGSE et d'autres services de renseignement, et dans lequel il racontait toute sa vie, une partie de sa vie, et son enquête sur le groupe Areva. Donc ce livre nous avait valu un procès pour diffamation. Nous avions gagné en première instance. Nous avons gagné en appel, évidemment. Et là, c'est une victoire, deux victoires à plate couture, où elle est battue à plate couture, parce que aussi bien en première instance qu'en appel, les deux cours ont jugé que le contenu du livre n'était pas diffamatoire. Et donc, elle a été déboutée. On n'est pas relaxé au titre de la bonne foi, ce qui est une victoire en soi. Elle est déboutée de ses procédures. Alors... Le problème, moi, que dans le jugement, j'aurais dû l'apporter, j'ai oublié. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. D'appel, alors on l'avait déjà plaidé en première instance et on l'a replaidé en appel, c'est que c'était évidemment, ce procès était un procès Bayon. Parce que, et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à la cour d'appel, Marc Échinger, c'était sa huitième procédure contre initiée par Anne Lauvergeon, et elle les avait toutes perdues. Premier point. Deuxième point, le contenu de ce livre, c'est le résultat c'est le fruit d'une longue enquête que j'ai menée avec Marc de 2015 à fin 2019, début 2020. Le livre est sorti en juin sous en format numérique et en septembre 2020 sous en édition papier, en librairie. Et les informations principales, justement là où elle attaquait, en estimant que les passages étaient diffamatoires, ces informations-là, je les avais... publié sous ma plume, sous ma signature, dans un certain nombre de médias en France. À l'époque, j'ai publié des enquêtes dans le Journal du Dimanche, bien avant que Bolloré, évidemment, l'achète. J'avais publié dans le magazine Capital, j'avais publié dans Marianne.
Et dans Libération, il me semble aussi.
Sur Areva, non, je ne crois pas, je n'ai pas souvenir. Mais au moins sur ces trois titres, j'avais fait un grand web documentaire en quatre parties sur le site d'information d'Arte. Donc, et quand on prend en fait le contenu de l'ensemble de ces enquêtes, c'est ce qu'il y a dans le livre. Alors, il y a quelques éléments supplémentaires, évidemment. On ne s'est pas contenté, mais voilà. Et donc, moi, mes enquêtes, à aucun moment, Anne Louvergeon, d'abord, quand je l'ai toujours contacté, ou j'ai contacté son avocat de l'époque, ils ont toujours refusé de commenter. Et ils n'ont jamais envoyé de droit de réponse aux médias qui me publiaient. Et ils n'ont jamais fait de procès. Ils m'ont jamais fait de procès en direct. Là, parce que le livre est co-signé par Marc Échinger, ils attaquent. Donc ça montre bien la volonté d'abord qu'il y a une cible identifiée, c'est détruire Marc Échinger d'une part, et d'autre part, c'est un procès bâillon, parce que, évidemment, moi, quand je sors une info, bon, voilà, quoi, même si c'est dans le JDD, bon, ça fait pas trop de vagues, quoi, donc c'est gérable.
Tu exagères.
Merci, c'est gentil.
Non, je suis pas d'accord.
Mais Marc Échinger a une certaine audience. Il est pris au sérieux dans les cercles du renseignement français international. Et donc, évidemment, ça a beaucoup plus d'impact en termes d'image pour Anne Louvergeon. Donc, c'est pour ça qu'elle cherche à tout prix à le bâillonner, à le faire taire. Et donc, tous les éléments étaient réunis pour démontrer que c'était véritablement un procès bâillon et qui, voilà, quoi. Bon. Que ça soit pas décidé en première instance, d'accord, mais le première instance, le jugement est impeccable. Même le procureur, madame la procureure, puisque c'était une femme, l'a dit dans sa plaidoirie, elle nous a appuyé, elle nous a donné raison. La procureure, en première instance, a dit qu'il n'y avait aucun passage diffamatoire. Donc, on a quand même un ensemble d'éléments qui montrent bien que c'était pas nécessaire d'aller en appel pour elle. Mm-hmm. Le jugement d'appel était connu. Donc, si elle y va, c'est bien pour faire taire Marc Échinger, c'est pour empêcher qu'on parle du livre. Et dans le jugement, et c'est ce que je regrette de la part de la Cour d'appel, dans le jugement, la Cour d'appel reconnaît que, oui, il y a des éléments qui indiquent que cette procédure est une procédure bâillon, mais ils ne vont pas plus loin. Nous demandions des dommages et intérêts, à ce titre-là, qui ne nous ont pas, malheureusement, été accordés. Bon, c'était mes vacances. J'espérais toucher quelques milliers d'euros. On avait demandé chacun 10 000 euros. Hein.
Ah oui, pour donc, faire des vacances.
J'imaginais déjà partir en vacances en Guadeloupe. On pourra parler aussi de alors c'est pas un procès bâillon, mais c'est une façon aussi de contrôler la presse, ce qui vient de se passer en Guadeloupe, avec ma consoeur Barbara Olivier Zindronis, de RCI. Mais voilà, donc je trouve dommage, je trouve que la 17e chambre et la cour d'appel à Paris sont un peu frileuses, hésitent. Alors que les jugements sont très clairs, qu'il y a tous les éléments qui sont réunis pour que ces parties civiles qui abusent de la justice soient sanctionnées au portefeuille, parce que c'est qu'à ce moment-là qu'on arrivera à leur faire comprendre que c'est pas la peine d'insister. Et donc, ça serait bien que la 17e chambre et la cour d'appel se décident un jour. Si c'est pas moi, j'espère que ça sera un autre de mes consoeurs qui en bénéficiera, mais disent à un moment, stop, il y en a marre de ces procédures.
Ouais. Alors, la deuxième procédure bâillon.
Alors, si on remonte avant les procès d'Anne Louvergeon, avant ça, ça a été mon premier procès avec Blast, dans l'affaire du Qatar Connection, de la fuite massive de documents provenant du Qatar que Bernard Nicolas et moi avons exploité.
Je vous avais reçu tous les deux.
Tout à fait. Et donc, dans les quatre premiers documents, il y avait un document qui concernait Bernard-Henri Lévy, dans lequel l'émir du Qatar expliquait qu'il souhaitait remercier notre immense philosophe qui passe plus de temps le poitrail découvert qu'à réfléchir dans son bureau, qui voulait le remercier. Donc, c'était au moment de la guerre en Libye, en fait, du printemps arabe en Libye, qui est devenue une guerre civile avec tous les massacres qu'on a connus et toute la déstabilisation de la zone du Sahel et donc la fuite maintenant de l'État français de ces zones-là. Donc on voit toute la machinerie infernale que BHL a mis en œuvre en soutenant aveuglément les bandes de terroristes islamiques qu'il présentait comme étant la résistance du peuple libyen, qui était par ailleurs financée par le Qatar, et c'est pour ça, pour son action médiatique, que l'émir du Qatar souhaitait le remercier, mais c'est pas un petit chèque, quoi. C'est pas un petit chèque, 9 millions.
Alors, je vous rappelle...
Et donc, Bernard-Henri Lévy n'a pas aimé notre papier. Et donc, il nous a attaqués devant la 17e Chambre, dans une procédure civile, ce qui est extrêmement rare. Il nous réclamait, évidemment, des 1000 et des 100, le pauvre homme, il pouvait plus se montrer dans Paris. Tout le monde lui jetait des bananes, des tomates, des œufs. Le pauvre, il était invité partout en même temps, mais il pouvait plus y aller. C'était terminé. Il était là en train de se flageller. Mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, voilà, quoi. Et donc, il a pleuré. Enfin, son avocat a pleuré pour lui devant le tribunal, qui lui, en première instance, qui lui a mis un gros coup de pied au cul et qui l'a renvoyé dans ses buts en disant rien n'est diffamatoire, circuler, il n'y a rien à voir, et qui lui a imposé le remboursement des frais de justice à hauteur de 3000 euros. Comme il n'avait pas compris la leçon, il est allé en appel, parce qu'évidemment, leur ego est tellement boursouflé qu'il faut bien... Mais vous allez voir ce que vous allez voir. La cour d'appel va me donner raison. Et la cour d'appel lui a remis un deuxième coup de pied aux fesses et l'a recondamné à 3000 euros. Donc Blast, dans ce procès, mais qui a empêché la presse, évidemment, nos confrères d'en parler, puisque ils étaient menacés d'un procès s'ils en parlaient, ce qui est... C'était bien le but, notamment de l'opération, en dehors du fait qu'il avait son ego blessé. Et donc, Bernard-Henri Lévy a payé 6 000 euros à Blas. Alors, comme à l'époque, le Blas se développait, avait besoin d'argent, je pense que le chèque a été encaissé. Mais je pense qu'aujourd'hui, si ça se reproduisait, je crois que le chèque resterait encadré.
Oui.
Parce que, voilà, BHL a payé à Blas 6 000 euros pour les frais de justice d'une double procédure totalement abusive. Voilà. Donc, c'était notre instant de fierté quand les jugements ont été rendus successivement par la 17e et la Cour d'appel.
Alors, pour revenir au contenu de l'enquête, il faut rappeler que vous expliquiez le financement par le Qatar de BHL d'un certain nombre de personnalités politiques. Je te laisse les nommer.
Évidemment Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République, puisqu'on a déjà oublié qu'il a été président de la République, tellement il est dans les pages faits divers, police justice.
Il a marqué son époque.
Oui, comme tu dis, François, il a marqué son époque.
Carla Bruni. Carla Bruni.
Il y avait son épouse, Carla Bruni aussi, qui avait reçu une valise remplie de 6 millions d'euros. L'épouse de l'émir souhaitait remettre 6 millions d'euros en cash, parce que on n'a pas la preuve que tout ça a été payé, hein. Nous, on n'a pas toutes les preuves qu'on a, c'est la volonté, c'est les courriers échangés entre l'émir du Qatar, son épouse, leur service et la Banque nationale du Qatar pour débloquer des fonds à distribuer un certain nombre de personnalités. On n'écrit jamais...
C'est par la valise diplomatique, je suppose.
On ne sait pas. On sait que pour Carla Sarkozy, qui était en déplacement à l'époque au Qatar, ce qui était dans le courrier, c'est que la somme devait être remise en liquide, en cash. Mais on n'a pas la preuve que ces paiements ont bien eu lieu et que ces personnes ont touché l'argent promis, annoncé par l'émir du Qatar. Donc, nous, on s'arrête juste au fait que l'émir du Qatar a voulu remercier un certain nombre de personnalités en France. Et aussi, l'une des sous-enquêtes, des grosses sous-enquêtes de l'ensemble de cette fuite de documents du Qatar, était consacrée évidemment à la corruption par le Qatar la FIFA, l'organisation, la Fédération internationale de football, pour l'obtention du championnat du monde de foot qui a eu lieu il y a un an dans cet émirat gazier. Et donc, on a tous les flux, On pouvait aller beaucoup plus loin avec le nom des intermédiaires. Et parmi les intermédiaires, il y avait notamment le président du PSG. On n'a eu aucun démenti, aucune plainte en dehors de la plainte de BHL et aucune plainte soit du Qatar, soit d'autres personnalités contre toutes les révélations qu'on a faites à l'époque.
Blast a gardé les enquêtes, on peut les regarder. Il suffit de taper Thierry Gadeau ou Bernard Nicolas dans le moteur de recherche et vous tombez sur les
Pour revenir à l'actualité brûlante,
il y avait le financement de Netanyahou par le Qatar.
Tout à l'heure, on a eu aussi, parmi les documents qu'on nous a remis, il y avait aussi des documents qui montraient que l'émir du Qatar avait financé le premier ministre israélien en même temps qu'il finançait le Hamas.
Voilà. Vous étiez les premiers à le révéler.
On est les seuls, puisqu'on est les seuls à avoir eu les documents. Il y a des papiers qui sont sortis depuis peu, parce que il y a un site israélien qui est lié au service de renseignement du Mossad, qui est la faction opposée à Benjamin Netanyahou, qui a exploité notre document sans nous citer, évidemment. Mais à l'époque, les documents avaient été remis à la justice. Donc, quand on a publié l'enquête, ça devait être en 2021, à l'automne 2021. Et à l'époque, les documents avaient été remis à la justice israélienne qui n'en a rien fait. Bon, si elle avait agi, peut-être que l'histoire aurait été différente.
Voilà. On va faire une pause et on va revenir sur le troisième dossier. Merci, Kan Dong.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et se lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. J'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Je n'ai pas sommeil, je fume et je veille, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté. pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité. Pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. C'est... Ils t'ont couché là. Et puis ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. François et Thierry, choix de Thierry, Betty, de Lavilliers.
Évidemment, Lavilliers.
Bon,
ouais, tout est écrasé. On a écrasé une petite larme avec Thierry.
Oh ouais. Depuis plus de 40 ans, c'est mon premier concert quand j'étais jeune.
Ah ouais?
Donc, ouais, 1980. Donc, voilà. Donc, j'écoute. Bernard depuis toujours et je continue de l'écouter.
Bon, alors troisième procès.
Troisième procès, donc c'est en fait le premier procès dans l'ordre chronologique. Donc il date du livre que j'ai coécrit avec Pascale Tournier, qui est maintenant rédactrice en chef adjointe du magazine La Vie et qui était consacrée, qui était une biographie d'Henri Proglio. À l'époque, il était PDG d'EDF et il venait de quitter Veolia, où il avait fait toute sa Veolia Générale des Eaux, où il avait fait toute sa carrière professionnelle avant.
Livre pour lequel je t'avais reçu.
Oui, tout à fait. Ça doit être la première fois, d'ailleurs.
Tout à fait. Et j'ai été enchantée de te recevoir. Vraiment, j'avais dévoré le livre. Et je me suis dit, je veux... Ça a été compliqué de te recevoir parce que, comme tu étais sur enquête, les gens n'avaient plus tes coordonnées. Donc, il a fallu que j'appelle ton éditeur pour avoir tes coordonnées, je me rappelle. C'était une enquête, hein, en soi.
Donc, dans le livre, il y avait notamment un passage... où le bras droit d'Henri Proglio à l'époque où il était cadre dirigeant de la Générale des Eaux et présidait les filiales qui s'occupaient des déchets, nous racontait que à l'occasion de l'obtention d'un marché, d'un gros marché à Nantes, Henri Proglio lui aurait dit qu'il avait versé une commission occulte au maire de Nantes. À l'époque, il était Jean-Marc Ayrault. Et quand on sort le livre, Jean-Marc Ayrault est Premier ministre. Alors, Jean-Marc Ayrault n'a jamais rien dit, ne s'est jamais signalé. Mm-hmm. C'est...
silence radio.
Silence complet. Radio. Par contre, Henri Proglio a porté plainte pour diffamation contre Pascal, contre moi, contre l'éditeur, et donc contre son ancien collaborateur. C'est l'homme qui l'a fait, en fait, qui s'appelle Yann Le Doré. Et on s'est retrouvés, donc, la première fois. Alors, là, il a pas fait une citation directe devant la 17e chambre. Il est passé par un autre type de plainte, hein, qui est une plainte avec constitution de partie civile. Donc, ça se fait devant le procureur. Et ça aboutit à une mise en examen automatique des auteurs de l'infraction. D'accord. Supposée. Mm-hmm. Donc, c'est bien parce que comme ça, vous voyez, ils ont été mis en examen. Ben non, mais c'est la procédure qu'il impose. Ouais. On est reçu par un juge d'instruction. Donc, on a été reçu par la doyenne des juges d'instruction à l'époque au tribunal de Paris. Et c'était mon premier procès. Donc, je lui ai dit, ben, madame, je suis content d'être dans votre bureau parce que depuis que je suis journaliste, c'est la première fois que j'ai un procès pour diffamation. Et je commençais à m'inquiéter en me disant que je suis peut-être pas un bon journaliste parce que personne ne me fait de procès. ce qui l'a fait beaucoup rire, et donc on a échangé très gentiment, etc. Mais elle fait aucun acte de procédure. Elle est juste là pour mettre en examen et renvoyer ensuite au tribunal. Donc voilà. Mais il y a le côté, voilà, un peu humiliant de la mise en examen. Enfin bon, humiliant, rien quoi. Ouais. Mais bon, ça a fait plaisir aux égaux des personnes qui utilisent cette procédure. Et donc on s'est retrouvé devant la 17e, et devant la 17e nous a relaxé au titre de la bonne foi, a reconnu que ce passage, cette citation de Yann Le Doré était diffamatoire, mais a reconnu que l'enquête était sérieuse, d'intérêt public, documentée, et donc on a été relaxé. Proglio est allé en appel, évidemment, et la cour d'appel a jugé exactement comme la première instance, a confirmé le jugement, et donc voilà. Donc j'ai gagné jusqu'à présent tous mes procès. Alors, bientôt, je vais en avoir de nouveau. Alors, je vais retourner voir la 17e, probablement la cour d'appel, mais voilà, donc...
Alors, ça, on peut en parler, puisque tu nous as fait l'honneur de nous donner un scoop. Donc, c'était dans ta dernière émission où tu venais pour parler de l'eau. Et depuis, l'eau est devenue un sujet majeur en Guadeloupe et à Mayotte.
Oui.
Donc... Tu prévoyais d'ailleurs pourquoi ça allait le devenir. Donc, si vous voulez réécouter l'émission, allez-y, elle est sur le site du groupe Louise Michel.
C'est long juillet, quelque chose comme ça.
Tout à fait. Et surtout, dans la dernière partie, tu nous donnais l'actualité qui était France Travail.
Oui, c'est-à-dire que pendant qu'on était en train de faire l'émission, qu'on était en train de discuter donc, des problèmes d'eau en Guadeloupe et dans d'autres territoires ultramarins, Blas mettait en ligne l'enquête que je venais de boucler, qui était consacrée à une grosse enquête sur France Travail, donc la réforme du marché de l'emploi et de Pôle emploi, transformée en grosse agence de placement de tous ces salauds qui veulent pas travailler, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas travailler. Réforme pilotée par le député Marc Ferracci, ami intime d'Emmanuel Macron, ancien conseiller spécial de la ministre du Travail entre 2017 et 2020, ensuite conseiller spécial du Premier ministre Jean Castex, devenu député. Et je racontais qu'il y avait un petit problème quand même de l'égalité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Marc Ferracci, c'est aussi le fils de Pierre Ferracci. Pierre Ferracci qui est le principal actionnaire et le principal dirigeant d'un groupe qui s'appelle Secafi Alpha, dont l'une des filiales, Sémaphor, est spécialisé dans le placement des chômeurs. Et donc potentiellement un sous-traitant de Pôle emploi France Travail, et donc avec l'afflux de monde qui va arriver chez France Travail, ça va faire du travail, beaucoup de travail pour toutes ces sociétés privées qui sont sous-traitants de Pôle emploi. Et je disais, ben, c'est un peu gênant quand même, d'autant plus que Marc Ferracci est aussi actionnaire indirectement.
C'est un conflit d'intérêts.
Moi, j'appelle ça comme ça. Oui. Alors, on me dit qu'on n'a pas le droit de le dire. Alors, je dis mélange d'intérêts.
Oui,
mais paraît-il, mais bon, moi, j'ai rien vu qui, en soi, était... Mais le terme en français, ça s'appelle effectivement un conflit d'intérêts entre sa position publique et ses intérêts privés. Mmh. Donc, ça me vaut... une triple plainte de Marc Ferracci, dont le procès, alors tout ça pour diffamation évidemment, citation directe auprès de la 17e, donc Marc Ferracci, le procès est prévu pour le 16 février, si ma mémoire est exacte, mais depuis à la rentrée, j'ai reçu la plainte de Pierre Ferracci et du groupe Secafi Alpha. Et donc là, le procès est fin octobre 2024. Donc avec mon Blast et l'avocat de Blast, on réfléchit, est-ce qu'on colle les deux procès en même temps, ce qui serait plutôt vu d'un bon œil par la 17e chambre, plutôt que de faire deux fois le même procès, quoi. Donc voilà, donc après, c'est le choix... De l'avocat de Marc Ferracci, s'il veut pas que tout soit collé, on aura un procès le 16 février, c'est pas bien grave. Je sais déjà comment ça... Enfin, je ne veux pas préjuger de la décision de la 17e Chambre, mais je suis sûr de mon enquête, je suis sûr de mes informations, d'autant plus que mes informations reposent essentiellement sur des sources ouvertes, et que rien dans mes informations est faux, donc je suis à peu près sûr comment ça va se terminer.
Tu as été soutenu et repris, pardon, par Mediapart, qui est poursuivi, si mes souvenirs sont exacts.
Non, je n'ai pas souvenir que Marc Ferracci ou le groupe Secafi Alpha aient lancé d'autres plaintes.
Ah, il n'y a que toi qui es poursuivi.
Il n'y a que Blast et moi, puisque c'est sur Blast que j'ai diffusé.
Oui, et notre radio n'a pas été poursuivie. Alors, François me dit qu'on n'existe pas. C'est charmant pour nous.
Mais enfin... J'en suis désolé pour toi, mais peut-être pas pour la radio, parce que ça coûte quand même de l'argent d'avoir un avocat devant la 17e. Mais effectivement, j'avais raconté l'enquête à l'antenne. Mais bon, c'est
on peut
en parler entre nous. Évidemment, le fait qu'il n'ait pas attaqué Radio Libertaire, je vais l'utiliser. Je vais dire, c'est marrant quand je parle de cette enquête dans les mêmes termes que je le fais dans mon enquête dans le papier sur Radio Libertaire, on va pas attaquer la Radio Libertaire. Pourquoi ?
Alors voilà.
Là, ils vont faire notre pub.
Quand c'est écrit sur Blast, c'est diffamatoire. Quand c'est parlé sur Radio Libertaire, c'est pas diffamatoire. Donc, c'est un argument supplémentaire pour moi. C'est pour ça que te désole pas. Au contraire, moi, je suis très content que vous soyez pas attaqué.
D'ailleurs, on t'avait reçu peu de temps avant.
Parce que le retour, je voulais te poser une question qui est un peu connexe. Tu sais à quel point les milliardaires ont l'art de chialer après leur fric,
bien sûr,
poussé en cela par Bruno Le Maire, pour ne pas le nommer. Mais alors, ces excellents milliardaires n'arrêtent pas de pleurnicher que tout le monde sait que la presse, c'est pas rentable. Voilà. La presse n'est pas rentable. Alors, qu'est-ce qu'ils vont foutre leurs milliards dans la presse ? Alors, est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus, toi ?
Si la presse n'était pas rentable, ça se saurait.
D'abord, faut pas vous tromper. D'abord, la presse ne pèse rien. C'est même pas l'épaisseur d'un trait, c'est même pas le poids d'une plume. C'est moins qu'une plume dans les bilans financiers de leur groupe. Par contre, ça crée du crédit d'impôt. Donc, ça permet de réduire la fiscalité de l'ensemble. Bon, pas énormément, mais les pertes du pôle presse, évidemment, génèrent des économies d'impôts au niveau du groupe. Donc, faut pas s'arrêter. Et bien, ça, c'est parce qu'ils réclament toujours de l'argent public. Les milliardaires et les hommes d'affaires, entre guillemets, français, ne vivent que par l'argent public. Alors, peut-être pas tous, mais je ne sais pas aujourd'hui lequel n'est pas biberonné par l'argent public. Et ce qu'ils recherchent, c'est la rente publique, évidemment. Et donc, tout et n'importe quel argument est bon pour essayer d'arracher un peu plus d'argent de notre poche. Voilà, c'est la seule raison.
Oui. Donc la presse, ça rapporte. Je suis désolé.
Bien sûr.
Ça rapporte pas comme ils le prétendent, comme ils voudraient que ce fût dit. Ça ne rapporte pas. Ça rapporte par la bande, quoi. C'est un peu ça, tu veux dire.
En réduction d'impôts, voilà. D'une part, et puis d'autre part, ça rapporte aussi en termes de pouvoir, évidemment. Le pouvoir médiatique, le pouvoir politique est extrêmement sensible aux médias. Et donc, évidemment, par ailleurs, leur intérêt idéologique et économique sont pas totalement alignés. C'est pour ça qu'on va peut-être retomber sur notre premier sujet. Ces fameux états généraux de la presse, ça va peut-être permettre de justifier de nouvelles, soit réductions d'impôts, soit de nouvelles subsides versés à ces milliardaires qui n'ont pas besoin de l'argent public déjà pour vivre au-delà du raisonnable.
Alors, je voudrais que tu reviennes sur le cas de ta consoeur qui a été écartée de l'antenne parce qu'elle a fait une interview correcte et journalistique de Bardella.
Oui, tout à fait. Donc,
on l'a écoutée.
De quelle antenne elle a été écartée ?
RCI. Alors,
d'accord. Voilà. Vas-y.
mon papier pour Blast doit être publié soit ce soir, soit demain, je pense plutôt demain. En fait, l'histoire est très simple. Barbara Olivier Zandronis présente le journal de 13h sur la radio privée RCI Guadeloupe depuis le mois de septembre. C'est une journaliste qui a une dizaine d'années d'expérience, qui a déjà plusieurs années d'expérience et de compétences sur la présentation de journaux, que ça soit en télévision ou en radio, en Guadeloupe et en Martinique. Et donc, vendredi 8 décembre, elle reçoit l'invité du journal, c'est le président du parti d'extrême droite, RN, qui est en visite en Guadeloupe pour la campagne, puisqu'il a déjà commencé la campagne pour les européennes et qu'il est candidat à son renouvellement puisqu'il est eurodéputé. Et donc, il est reçu et Barbara Olivier Zandronis va mener une interview qu'on devrait monter dans toutes les écoles de journalisme.
Oui.
C'est-à-dire, elle a préparé son dossier, elle a préparé cette question qui sont extrêmement factuelles et précises sur des faits, des mots, des propos et des actes, des absences d'actes de Jordan Bardella. Ça a mis Bardella fou furieux,
oui.
Parce qu'évidemment, qu'on lui demande de s'expliquer sur
l'hôtel
5 étoiles des migrants qui viennent d'Afrique et qui dorment dans les rues ou dans des campements de fortune et comparer ça à des hôtels 5 étoiles, il savait pas quoi dire. Il savait pas quoi répondre à aucune des questions que lui posait très calmement. Ma consoeur. Et franchement, cette interview, alors on peut pas la voir parce qu'elle est pas en vidéo.
On peut la voir. Elle a été diffusée pour partie, la partie la plus significative, par le média. On peut l'écouter par le média.
Elle est uniquement audio, mais moi je la diffuse. On a tous l'ensemble du journal et donc il finit par s'emporter, il claque la porte du studio en partant sa troupe là, ses gros bras sont déjà en train de faire un esclandre derrière la porte du studio. Il y a le directeur de la station. Bardella sort fou furieux et commence à gueuler. Et le directeur de la station d'RCI se répond en excuse, juste hallucinant, et promet à Jordan Bardella que la journaliste sera sanctionnée. Et donc, dans la foulée, elle est encore à l'antenne en train de finir son journal. Quand elle sort du studio, son journal terminé, Bardella et sa clique sont partis et elle est convoquée dans le bureau du directeur qui lui annonce qu'elle est mise à pied et qu'elle est retirée de l'antenne jusqu'à la fin de son contrat qui va au mois de juin 2024.
Donc, il y a une pétition qui circule pour la réintégrer à l'antenne. Il faut la signer.
Ah oui, mais alors, il faut la voir aussi.
Oui,
je peux apporter quelques précisions.
Voilà.
Parce que après, c'est intéressant. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est que l'information, moi, je l'ai très tôt le vendredi, en début d'après-midi. Et d'abord, elle est au conditionnel, parce que voilà. Et puis à 18h, l'information se confirme 18h, heure locale. Et le premier secrétaire de la Fédération socialiste de Guadeloupe, Olivier Nicolas, fait un tweet et qui va mettre le feu, 500 000 vues, plus de 500 000 vues, et est repris immédiatement à Paris par des journalistes. Alors, samedi matin, évidemment, puisque quand il le publie à 18h, c'est quasiment, il est minuit à Paris.
Voilà.
Et donc, le samedi, à partir du samedi matin, c'est le feu dans les rédactions parisiennes qui s'emparent toutes de l'affaire. C'est le feu chez les politiques et notamment les parlementaires guadeloupéens qui dénoncent collectivement la censure et la sanction qui frappe ma consoeur. Et donc, depuis, la direction, alors le directeur d'RCI Guadeloupe et la direction générale du groupe RCI essayent de justifier l'injustifiable. Et donc, on a deux sons de cloche. Alors, en plus, le directeur de l'antenne, le directeur de RCI Guadeloupe est intervenu dans le journal de lundi d'RCI pour justifier, mais il en a rajouté dans les conneries, c'est pas possible. Je le raconte dans le papier que vous pourrez lire prochainement sur Blast. Et puis, moi, j'ai eu, je suis peut-être le seul journaliste à avoir eu Alexandra Élysée, qui est la directrice générale du groupe RCI, qui est par ailleurs très bien connue en France, parce que cette jeune femme qui tient son poste de son papa, qui est l'actionnaire principal du groupe, qui vit, qui préside tout ça de Belgique, je n'en dirai pas plus, a participé à une émission de télé-réalité il y a 2 ans sur TF1. Je dis pas quelle émission ni rien. Vous découvrirez ça dans mon papier parce que je suis assez fier quand même du coup. Et alors c'est connu aux Antilles, mais pas à Paris apparemment. Et je lui ai juste envoyé, comme j'avais son numéro de téléphone, j'ai obtenu son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message pour lui demander si je pouvais, si elle acceptait de me répondre à quelques questions. J'avais pas posé une question, qu'elle m'a flingué la journaliste. Je donne l'échange, hein. Et tout ça serait arrivé parce que ça serait la faute du beau-père de la journaliste. What the fuck. Allez, je vais jusqu'au bout. Excusez-moi. Mais tout ça parce que le beau-père de Barbara, Olivier Zandroni, c'est aussi un journaliste guadeloupéen, tendance indépendantiste. C'est le patron du site d'information Créole Caraïbe, je sais plus, News, je sais plus comment il s'appelle exactement.
On le verra dans ton papier.
Ouais, et c'est un invité régulier de l'émission politique RCI Guadeloupe. Donc c'est génial. Mais voilà, j'adore. Et puis évidemment, comme dans toutes les histoires, de ce type, Bolloré n'est jamais très loin. Vous découvrirez dans mon papier pourquoi Bolloré n'est pas très loin de tout ça.
Voilà. Et comme Bolloré, c'est une cible chez moi, donc je suis contente de t'avoir laissé ces 10 minutes pour en parler. Voilà. Merci Thierry.
Je t'en prie. Mais alors, surtout, il faut soutenir cette consoeur qui a franchement fait du super travail.
Comme celui de TV5.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ah. 2 exemples pour les écoles de journalisme.
Exactement.
Voilà. Alors, je dois préciser, pour ceux qui seraient étonnés, il était prévu une émission sur les prisons. Il se trouve que notre invité n'a pas pu se rendre dans notre studio. Donc, Thierry, je te remercie infiniment. Tu as accepté au pied levé de venir le remplacer.
C'est toujours un plaisir. Et,
ah, merci. Ah non, c'est nous qui te devons vraiment un honneur. C'est un honneur de te recevoir. Et on te remercie pour cette émission
extraordinaire. Bien enlevée.
Bien enlevé, extraordinaire. Ouais, donc, tu peux nous redonner le nom de ta consoeur qu'il faut soutenir.
Donc, elle s'appelle Barbara Olivier Zandronis.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a une pétition qui circule sur les réseaux. Signez-la et je pense qu'on va gagner pour ce dossier-là. Par contre, pour TV5 Monde, j'ai un peu moins d'espoir parce qu'il y a un blackout.
Oui, il y a eu un peu de mobilisation au moment
au début, mais bon, depuis, c'est retombé.
Comme c'est à propos d'Israël, de Tzahal, du comportement de Tzahal, ouais. Et que dans les médias dominants, faut pas critiquer Israël malgré sa politique colonialiste et criminelle qu'elle mène, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, et je peux me permettre de le dire, je suis juif. Donc malheureusement, ce journaliste ne sera pas défendu comme il devrait l'être.
Voilà, tout est dit. Bon, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. François, merci. Thierry, merci infiniment. Vraiment, tu reviens quand tu veux. Merci à Kendong pour la technique. Il remplaçait Jean-Mi, qui était pris par ailleurs. Et on l'embrasse, Jean-Mi. Et on vous dit, portez-vous bien et faites attention à vous, surtout par les temps qui courent. Merci.
La rage, je vous fais serment, on voit le juge, tu juges, c'est qui mon juge, t'as le gamin maribin. J'ai des blousis, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Et quand elle me tape sur le ventre, elle garde ses gants et ça me désoblige. Outre que ça dénote un grand manque de tact, ça ne favorise pas tellement le contact. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde quand je tombe à genoux pour certaines dévotions qui sont bien de chez nous et qui donnent le vertige. Croyant l'heure venue de chanter le credo, elle m'ouvre tout grand son missel sur le dos. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde à la fornication. Elle s'emmerde avec ostentation. Elle s'emmerde, vous dis-je. Au lieu de s'écrier encore hardi, hardi, elle déclame du Claudel, j'ai bien dit. Alors ça, ça me fige. Elle m'emmerde, j'admets que ce Claudel soit un homme de génie, un poète immortel, je reconnais son prestige. Mais qu'on aille chercher dedans son œuvre pie, un aphrodisiaque, non ça c'est de l'utopie. Elle m'emmerde, vous dis-je, elle m'emmerde, vous dis-je. Il avait nom corne de roc, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, il avait nom corne de roc, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au guet, en le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, corne de roc. Mais que le bon Dieu lui pardonne, au guet. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, que le bon Dieu lui pardonne. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe. Il potassait à la chandelle, au guet, des traités de maintien sexuel, au guet, et sur les femmes nues des musées, au guet, faisait le brouillon de ses baisers, au guet, petit à petit, au guet, on a tous su de lui, au guet, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était.